dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin. Bonjour et bienvenue dans la cour des grands. La semaine dernière, nous écoutions la troisième partie de notre entretien avec Monsieur Després à propos du plus jeune résistant sartois. Nous allons aujourd'hui refermer ce long chapitre et ouvrir sur une nouvelle autre aventure, celle d'Ulysse, interprétée par la Pérenne Compagnie. La pièce de théâtre a été jouée devant tous les sixièmes de Pont-Vallin le 23 mai dernier. Avant d'entendre une partie du spectacle, les questions des élèves et de suivre l'interview des comédiennes, revenons sur la fin de notre fameux épisode autour de Bernard Vaupré et de la résistance en sud de Sarthe avec Lana, Zoélie, Solal, Steve, Marie et Jade.
Ils arment le revolver, ils le mettent sur la tête de Bernard, puis il lui dit, tu vois, toi, t'as de la chance. Il n'y a que 5 places dans la voiture. Et avec ta patronne, on ne peut pas t'emmener. Donc tu vas rester là. Et tu bouges pas de là. On repassera. Hein. Et tu vas t'occuper de la ferme, comme si rien n'était, que personne ne sache ce qui s'est passé. Ils s'en vont. Et donc, heureusement, il y avait Madame Hamelin, la voisine, qui, dès que la traction est partie, est venue. En passant par une route derrière, a appelé Bernard, puis a dit « Bon, t'es pas tout seul, je vais te faire à manger, on va se débrouiller tous les deux. » Et puis Bernard, il dit « Bah oui, parce que il n'y a pas que ça. Moi, je sais pas traire les vaches. Moi, je suis un commis de culture. » Les vaches, c'était les femmes, souvent, qui faisaient ça. Et alors, eh ben lui, il t'occupe pas. Moi, je vais traire les vaches, les tiennes et les miennes, puis toi, tu seras le patron des deux fermes pour faire le reste. » C'est comme ça que Bernard s'est retrouvé tout seul, pendant 52 jours, parce que personne n'osait venir, parce que la Gestapo avait dit qu'elle reviendrait. Bon, on arrête là.
Mais est-ce que les Allemands, ils sont revenus pour prendre Bernard ?
Bah, les Allemands, non, parce qu'on est le 28 juin. Le débarquement a eu lieu le 6 juin. Là, les Allemands, ils sont avec les Américains sur le dos, ils sont attaqués de partout, ils sont en train de refluer de la côte pour aller vers la Seine, et là, ils sont pris au piège, hein, dans ce qu'on appellera la poche de falaise. Il y a à peu près 20 000 soldats allemands qui sont pris dans les chemins creux, et les avions qui les attaquent en strafing, et qui mitraillent, et qui mitraillent, et qui mitraillent. Il y a à peu près 10 000 morts.
10 000 parmi les soldats allemands ?
Parmi les soldats allemands. Hein, les colonnes, les camions brûlent, etc., etc. Donc, ils ont autre chose à faire que de venir voir Bernard. Pourtant, il y en a encore qui sont là. Il y en a encore qui sont au camp de Toré, là, et qui sont en train d'essayer de détruire les munitions. C'est une période très compliquée, cette période-là. On ne sait plus très bien où on en est. C'est le oui-dire. Ah, il paraît qu'il y a eu un tel qui a été arrêté. Il paraît qu'il y a eu ci, il paraît qu'il y a eu ça. Et les résistants, à ce moment-là, sont planqués, pour la plupart. Sauf quelques groupes armés. Comme celui du capitaine Philippot, qui vont attaquer les Allemands par tous les moyens et rejoindre les Américains pour les guider à travers les lignes pour les amener au Mans. Mais c'est une période très compliquée.
Mais est-ce que Marie, elle a survécu ?
Oui, tu fais bien de poser la question. Oui, Marie, elle a survécu parce que les Américains sont arrivés. Elle était emprisonnée à la prison des archives. Et elle avait été à nouveau torturée pendant qu'elle était là. Elle était dans un état épouvantable. Il lui avait arraché les cheveux. Elle était pleine des... Mais elle a été libérée à ce moment-là. Pour finir l'histoire de sa patronne a quand même fini sa vie à l'hôpital psychiatrique d'Allon, avec des cauchemars, avec des hurlements, etc., parce que toutes les tortures qu'elle avait subies était encore en elle, et donc quelquefois la nuit, elle se mettait à hurler, à partir à courir dehors, à se cacher des avions, alors qu'il y avait 15 ans que la guerre était finie. Donc voilà ce qu'est devenue Marie, elle n'a jamais eu d'enfant, et puis voilà.
sud de Sarthe, est-ce que des Français ont travaillé pour la police allemande?
Alors, j'en sais rien parce que ceux qui travaillaient pour la police allemande, c'était Le Mans. Ils étaient au Mans. Mais maintenant, ils intervenaient dans tout le département. Et donc, la preuve, là, dans l'arrestation de Marie, là, t'as bien vu qu'il y avait un qui parlait bien français, qui était là, etc. Bon, et qui était un Français qui collaborait avec les Allemands, qui était un membre de la Gestapo française. On sait par les procès qui ont eu lieu à la fin de 1944, en 1945 surtout, que dans la Sarthe, il y avait à peu près 40 personnes qui ont collaboré avec la Gestapo. Avec la Gestapo, hein, 40. Hommes et femmes. Hein, il n'y avait pas que des hommes qui collaboraient, il y avait des femmes aussi.
Et comment vous avez réussi à récolter toutes ces informations?
Ça a été long. Ça a été long. Moi, je ne venais pas chercher des informations sur Bernard Vaupré. J'étais pas de là, je venais d'arriver, je venais d'acheter une maison qui est celle du Père Edard, donc au milieu de la maison de puits Vaupré, etc. Et étant fils de déporté, je suis intéressé à ce qui s'est passé autour, qu'est-ce qui s'est passé là en 1944. Alors les gens ne voulaient pas trop parler, ils ne savaient pas qui j'étais, donc même 50 ans après. Ils m'ont raconté un peu que ce qui s'était passé, le parachutage, Et moi, c'est du coup ce qui m'a intéressé. Ils m'ont pas parlé de Bernard Vaupré du tout. Ils m'ont parlé de Raymond Cordier et du capitaine Philippot. Et donc, c'est en travaillant sur le capitaine Philippot, qui était chef de réseau, et sur Cordier, que petit à petit, j'ai ramassé des renseignements. Et à un moment donné, je suis arrivé sur le fait que Bernard avait subi ça. Comme Bernard habite à 300 mètres de chez moi, à Vol d'Oiseau, par les rottes, hein, de l'autre côté des clôtures, je me suis permis un jour d'aller lui demander un rendez-vous, puis d'aller le voir en lui disant « Est-ce que je pourrais avoir des informations sur ce qui s'est passé là ?» Alors, il était très prudent. Et puis il m'a dit « Oh, bah, je sais pas grand-chose. » Alors après, je lui ai redit samedi « Oui, vous savez pas grand-chose. Ferme ta gueule, c'est ça ?» Puis il dit « Maintenant, vous pouvez parler un peu, quoi. » Et donc, voilà. Hein, petit à petit, j'ai regratté des bouts. Puis après, j'ai trouvé le neveu de M. Dupuis. Et puis, j'ai trouvé des gens. Et puis, petit à petit, les gens ont parlé. Quand moi, j'arrivais en disant, bon, après le parachutage, qu'est-ce qu'on a dit dans le coin? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai récupéré toute une série de renseignements, des petits bouts. Mais un petit bout, plus un petit bout, plus un petit bout, ça fait un gros bout.
Mais le fait que vous soyez un ancien militaire, ça aide pour la consultation des archives?
Quelle bonne question. On peut être militaire et pas s'occuper de l'histoire, etc. Mmh. Bon, ce qui peut aider, c'est comprendre ce qu'est l'action de guerre, etc. Mais non, moi, c'est pas ça qui m'a fait rentrer. Moi, la recherche historique, c'est parce que j'ai fait une formation d'historien, parce qu'on peut être militaire et suivre des études supérieures quand même. Hein. Donc j'ai fait une formation à l'université de Poitiers pour faire de l'histoire. J'avais pas besoin de faire une licence d'enseignement, je voulais pas être prof. Je m'y voulais simplement apprendre à travailler l'histoire. Donc j'ai fait plein de recherches et c'est resté ça a été un travail de recherche sur la recherche militaire, mais après, quand j'étais sorti de l'armée, j'ai continué pour moi. Hein, donc tout ce que je vous donne là, c'était pour moi et pour les gens. C'est-à-dire que là, Bernard Vaupré, je lui ai remis la Légion d'honneur samedi dernier, hein, 80 à 98 ans, avec la honte, je lui ai dit, de le faire si tard. Bon. Et pour ça, j'avais enlevé toutes mes décorations pour être comme lui, pour porter aucune médaille, rien. Et il a eu la Légion d'honneur. Et après, il m'a posé la question, mais pourquoi vous avez enlevé vos décorations? Il dit, parce que là, c'était vous qui étiez là. Je sais bien que normalement, en d'autres temps, je devais les garder. Il y en avait plein qui étaient là, qui les avaient gardés. Moi, je les avais enlevés. C'était une forme d'hommage aux gamins.
Il y a Henri Brossard. C'est le beau-frère de mon arrière-arrière-grand-mère. et il a été résistant. Il a il a caché un enfant juif.
Comment il s'appelle? Henri?
Henri Brossard.
Alors oui, ce que vous ne savez pas, c'est que du coup, les élèves, ils ont fait leur petite recherche, en fait, de leur côté, pour savoir s'ils avaient des résistants dans leur famille.
Oui,
ils ont enquêté eux-mêmes. Donc il y a Célian qui a enquêté, Marie aussi.
Donc du coup, ça, c'était
Jade
le beau...
aussi. Ça a demandé à ta famille.
Ça, moi. C'était le beau-frère de mon arrière-arrière-grand-mère. Et donc, du coup, mon arrière-arrière-grand-mère. Donc ça, ça n'a pas été prouvé parce que... elle n'a pas voulu le dire, mais c'est mon grand-père qui, du coup, l'a connue. Elle avait caché un soldat français qui s'était évadé dans les bois à côté de chez elle. Et ça a duré très longtemps.
Oui, alors ça aussi, il y avait des soldats français. Quand en 1940, l'armée française a été battue, il y a plein de soldats comme Dupuis qui se sont sauvés, etc. D'autres ont été faits prisonniers par les Allemands. Et ceux qui se sont sauvés, fallait qu'ils mangent, Et il y a des gens qui les ont protégés, gardés. Et c'était un acte de résistance, un des premiers actes de résistance. Un dernier petit truc, c'est possible ?
Très vite.
Sur Pont-Vallin, il y a un boulevard qui s'appelle Dubois-le-Cordier. C'est au bout de la rue du collège, en allant au Cormier. C'était la ferme de M. Decourty. Et ces deux garçons-là, Rémi Dubois et Laurent Lecordier, s'étaient réfugiés ici. Pour des raisons évidentes, c'est que leur tête était mise à prix. Rémi Dubois, qui était originaire de Coulonges, était venu se planquer là, parce que après la guerre, il est rentré dans la résistance et... il fallait qu'il se cache parce que la Gestapo le recherchait. Donc le 1er juin 1944, il est arrivé ici, il est arrivé à Pont-Vallin. On lui a dit d'aller chez M. Decourty, qui était connu comme étant le patron de la résistance à Pont-Vallin, dans cette ferme. Il s'est caché. Là, il a rencontré Lecordier. Laurent Lecordier avait 31 ans, Dubois avait 36 ans. Et Lecordier, lui, venait de Bretagne, venait de Brest. C'était un enfant de l'assistance publique qui s'était battu contre les Allemands dès le début. Et là, qui était recherché parce qu'il avait fait sauter un train de munitions dans le port de Brest. Et donc, il avait fui à pied en venant de la Bretagne, venant ici pour se cacher. Il s'est caché chez Decourty. Ils ont été dénoncés. Monsieur Decourty aussi. Et donc, la Gestapo a cerné toute la zone au bout de la route, là, pour les prendre. Et les deux, quand ils ont vu l'alerte, se sont sauvés à travers champs. Les Allemands étaient derrière, les Allemands les ont abattus. Rémi Dubois a été massacré en lui tirant dessus. Et Lecordier a été blessé, a réussi à sauter une haie. Et de l'autre côté, quand il a vu que les Allemands continuaient à tirer et arriver, a pris son revolver et s'est suicidé pour ne pas parler sous la torture. Parce qu'il savait trop de choses. Il avait très peur de dénoncer. Donc il a préféré se suicider. Et donc ces deux garçons, et Dubois a retrouvé sa famille, Lecordier n'avait pas de famille. Et donc son corps est au cimetière de Pont-Vallin, dans le carré militaire. Si vous passez par là, lui faites un coucou.
Ainsi s'achève ce long chapitre autour de la résistance dans la Sarthe. Je remercie M. Després d'être venu nous voir 3 fois dans ce studio et de s'être investi auprès des élèves qui étaient vraiment très très contents de l'accueillir. Encore 1000 merci. Le moment est venu de retrouver le spectacle Ulysse, mis en scène et joué par Valérie Pourroy, Chris Goupil et Lou Broussard de la Pérenne Compagnie. Je ne sais pas.
L'histoire que nous allons vous raconter est pleine de rebondissements, d'épreuves,
de rencontres étranges,
avec des monstres terrifiants.
Cette histoire, nous la connaissons tous un peu. Vous avez sans doute déjà entendu ses noms.
La guerre de Troie,
le cyclope, les sirènes,
Ithaque.
Vous êtes bien installés ?
Alors, écoutez l'histoire
du voyage d'Ulysse.
La guerre de Troie eut lieu au XIIe siècle avant notre ère.
Il y a 3200 ans environ. Cette guerre a duré 10 ans.
Après leur victoire sur les Troyens, les rois grecs survivants reprirent la mer afin de rentrer chacun chez soi.
Pour Ulysse, qui regagnait son royaume d'Ithaque, le voyage a duré 10 années supplémentaires.
4 siècles plus tard, des conteurs que l'on appelait aussi Aèdes parcouraient encore la Grèce en racontant les batailles livrées à Troie et le retour d'Ulysse.
Au fil du temps,
ces Aèdes enjolivèrent leur histoire, qui formèrent peu à peu une légende pleine de dieux,
d'annonces
et d'événements surnaturels. Mais attention, trop de surnaturel finit par abîmer une histoire. Par chance, un homme entre en scène. Au 8e siècle avant notre ère, il y a 2800 ans environ, Homère, Aède aveugle, s'empare de la légende et compose 2 vastes poèmes.
L'Iliade et l'Odyssée.
Le premier consacré à la guerre de Troie et le second au voyage d'Ulysse. 2 poèmes si beaux que plus personne n'osera rien y ajouter. Les dieux de la Grèce avaient un roi, Zeus. Ils habitaient un séjour enchanteur au-dessus des nuages,
l'Olympe.
De là-haut, ils observaient les hommes. Bon, parfois, ils descendaient sur terre sous les déguisements les plus divers. Bon, il arrivait qu'ils s'entichent d'un mortel et le protègent. Ou, au contraire, le prennent en grippe et le tourmentent. Ainsi, la déesse Athéna veillait sur Ulysse, alors que Poséidon, le dieu des mers, poursuivait ce même Ulysse d'une haine tenace. Par malheur, Poséidon, de retour sur l'Olympe, vit sur la mer calme le radeau de l'homme dont il avait juré la perte.
Il rassembla aussitôt les nuages, brandit son trident, déchaîna les bourrasques de Rhodes, de Notos, de Zéphyr, de Morée, bref, de tous les vents à la fois.
Des éclairs zébrèrent le ciel.
Le radeau craqua et se disloqua. Le mât foudroyé se brisa.
Une lame emporta Ulysse
et le jeta dans les flots en furie. De toutes ses forces, il nagea vers la côte. Le vent du nord nous pousse. Nous pénétrons à la fin du jour dans le temps crépusculaire.
Dans le monde souterrain,
je repère l'endroit décrit par Circé, trouve la caverne où je m'engage sans en voir le fond, un bélier sur les épaules. Je tranche la gorge de l'animal, recueille une coupe de sang et la promets à Tirésias. Bientôt, des ombres d'hommes et de femmes en haillons se précisent dans les ténèbres, arrivent de partout, mains tendues, en émettant une sorte de plainte lancinante. Je verdis une fleur. Mais la haute silhouette de Tirésias se profile et les ombres disparaissent.
Le devin aveugle s'avance, porte la coupe de sang à ses lèvres.
Tu souhaites un prompt retour pour rentrer dans ta patrie et des vents favorables pour pousser tes navires. Mais un dieu te rend la tâche pénible. Poséidon te hait pour avoir aveuglé l'un de ses fils, le cyclope Polyphème. Dans l'île d'Hélios, le soleil, père de Circé. Il possède des vaches grasses auxquelles il ne faudra pas toucher, sous peine de rendre ton voyage encore plus difficile. Je vois d'autres obstacles. Je vois ton palais. Une bande de parasites te croient mort, vole tes biens et courtise ta femme qui... elle... te reste fidèle et t'attend. Je vois... oui, je te vois rentrer chez toi, venir sans pitié, restaurer l'ordre dans ton royaume.
Et le devin s'éloigne dans le noir.
Ma question c'est combien de temps vous avez mis à faire tous les détails là, par exemple la mer, l'œil, ça vous a mis environ combien de temps à peu près?
Vraiment sur la construction des décors, par exemple l'œil c'est quelque chose que j'avais fait pour un spectacle d'avant, que du coup on a réutilisé, parce que là pour le cyclope il était quand même assez parfait. Sinon, presque tout ce que vous voyez, c'est des matériaux de récupération. Il y a essentiellement du carton, du papier, un peu de colle, un peu de feutre. Ça, c'est vraiment que des matériaux assez simples. Nous, des fois, cette lecture, on la fait et après, on fait travailler les élèves sur de la lecture à voix haute, sur comment eux, ils peuvent s'emparer d'une histoire pour la raconter. Et moi, je suis plasticienne et marionnettiste à côté, donc je fabrique des marionnettes, je fabrique des masques ou des décors pour les spectacles. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir un décor où vous puissiez vous projeter à vous dire quasiment tout ce qui est là, vous pouvez le fabriquer vous-même. Les bateaux, c'est des origamis, plein de choses comme ça. Après, combien de temps? C'est un peu dur à estimer parce qu'on a fait une première version, on a commencé à répéter le spectacle, on s'est rendu compte qu'il y a certaines des choses que j'avais construites qui étaient très bien dès le premier coup, il y en a certaines, ça marchait pas, donc il a fallu les retravailler un petit peu. C'est un spectacle, on ne construit pas, enfin on le crée pas en un temps donné d'un seul coup. Souvent, déjà, les filles, elles ont lu énormément de versions de Ulysse pour choisir sur quel texte on allait commencer. Ensuite, on a adapté le texte. Ensuite, je leur ai fait une proposition de scénographie. On l'a essayé en jeu, on a modifié un peu le texte, un peu le décor. Donc, je pense que tout compris, on a dû mettre un mois et demi, deux mois à créer la lecture. La scénographie, je pense que j'y ai passé une semaine entière.
Pour moi, il y a une sonnette sur le truc.
Ah là ?
Ouais.
C'est pour Lola.
Vous avez pas remarqué à un moment, à quel moment je le faisais? Alors à quel moment, c'est moi qui pose la question. À quel moment je faisais ça?
Quel même que celui où je fais ça?
À peu près. C'était quoi? Ça représentait quoi?
Oui.
Les mots importants.
Ah, non, c'est pas les mots importants.
Des chapitres. Les premiers. Oui. Titres de chapitres.
Non.
Non. On l'a fait à des moments précis, pas beaucoup.
Oui. Par exemple, on est arrivé dans une ville, par exemple, Olympe, ça.
Est-ce que c'est une ville, Olympe? Ça représente l'Olympe. Qui est-ce qui est dans l'Olympe?
Bah, les dieux.
Les dieux. C'est ça, c'est quand il y a les dieux qui arrivent.
Ça sonne, parce que c'est quand on arrive chez les dieux.
Oui, voilà,
on a fait ça. On truste, quoi.
C'est nous qui avons fait ça, hein. C'est pas... on sait pas si c'est vrai. Hein.
C'était l'idée qu'on...
on sait pas si c'est vrai. Hein.
C'est ça, on a mis à chaque fois le même son, à chaque fois qu'on parle de l'Olympe, en disant que tout le reste, ça se passe sur la Terre des Hommes, ça se passe, du coup, dans le même espace que nous, là où l'Olympe, ça reste un espace particulier, même dans la mythologie.
Comment vous faites pour pas rigoler?
Ça, c'est notre métier.
Ça va.
On rigole avant, on rigole avant.
Un comédien ou un humoriste qui rigole à ses propres blagues, ça n'a pas du tout envie de rire en tant que public. Alors que si lui ou elle tient vraiment ses blagues, elle tient son discours,
il faut pas
là, le public a la place de rire. Si le comédien il rigole, vous n'avez plus la place de rire.
Mais on rigole un peu intérieurement quand même. Parce que nous, des fois, il se passe des choses pendant la lecture que nous, on sait, entre nous. Et du coup, à l'intérieur, on rigole, puis on dit « Ah, il y a eu ça, là, 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 là. » Ça, c'est autre chose. Et puis des fois, il y a des passages un peu rigolos, on s'amuse à les faire, mais on les fait sérieusement. Sinon, ça marche pas. En fait. C'est ça. Hein.
C'est on ça, les fait on s'amuse sérieusement en fait. Ou on travaille en s'amusant.
C'est comme mais on essaie de pas rigoler. Par contre, c'est déjà arrivé hein, dans des représentations, pas là, mais moi, ça m'est arrivé. Mais au début, c'est quand je commençais à jouer, moi, j'avais du mal à pas rigoler, justement. Et c'était dur. Maintenant, ça va. Mais il y a une période où j'avais du mal. Mais si je rigolais pas à mes blagues, je rigolais à mes camarades, en fait. Avec les gens avec qui tu joues, des fois, ils font
et après,
des trucs.
Ça arrive que super quand on cherche, quand on est en répétition, qu'il y a une des impro fois, et que quelqu'un invente un truc super drôle, on rigole.
C'est entre nous, c'est qu'on regarde les autres. La première
fois, on rigole. Hein. Bon, quand ça fait 200 fois qu'on le voit, on rigole moins aussi. Hein.
Mais c'est quand on se regarde les uns les autres aussi.
Mais vous avez mis combien de temps à apprendre tous les textes? Parce que ça peut être long.
Tu sais, on a nos textes, c'est une lecture spectacle. Donc, tu vois, on a des pupitres, c'est pour ça qu'on a des pupitres. Après, on le connaît un petit peu, le texte, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on le fait quand même, cette lecture. Mais C'est quand même une lecture, donc on suit avec le texte.
C'est ça, effectivement, quand je fais des manipulations d'objets, de bateaux, etc., dans ces cas-là, je ne peux pas et lire et manipuler en même temps, donc c'est que des passages où j'étais obligée de les apprendre par cœur. Mais c'est ce qu'on expliquait un peu à vos camarades, où à votre âge, ça vous semble très compliqué d'apprendre par cœur, et c'est normal, mais parce que ça c'est comme un muscle. L'apprentissage par cœur, ça se travaille et ça s'étire. Donc, à votre âge, j'avais beaucoup de mal à retenir parfois mes cours, les dates en histoire, etc. Mais à force de travailler et de travailler, aujourd'hui, je suis capable d'apprendre 40 pages de texte sans y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et si jamais je n'ai pas travaillé ce texte-là pendant quelques mois, il suffit que je le relise une ou deux fois et il va revenir très vite. Apprendre quelque chose la première fois, c'est très dur. La deuxième fois, ça revient très rapidement. Et plus tu l'apprends et plus... Maintenant, ce spectacle, ça fait un moment qu'on joue. Même avec 6 mois d'arrêt, j'ai juste besoin le soir, la veille, de relire, de me repasser un peu le texte dans la tête et il est de nouveau dans ma tête.
C'est l'esprit quand vous avez inversé les deux plaquettes là, en carton.
À ton avis. Vous pensez qu'on a fait exprès les sirènes ou pas?
Bah si.
Vous n'êtes pas trompé, vous en avez fait exprès parce que...
Ah oui.
Comme nous, on voit maintenant les sirènes, on les voit comme ça.
Ouais.
Puis avant, elles étaient comme ça.
Les sirènes à queue de poisson, c'est les légendes nordiques.
C'est pour montrer les deux, en fait.
Les sirènes à corps d'oiseau, c'est les légendes grecques. Voilà. Ça vient pas des mêmes
endroits. Ça vient du nord et là, ça vient de la Grèce. Merci à vous.
Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre compagnie ?
Bonjour, je m'appelle Lou. On est la Perrine Compagnie et on présente des spectacles dans le cadre scolaire ou autre, souvent en lien avec le livre et la littérature.
Chris Goupil, donc comédienne et metteur en scène à la Perrine et qui fait partie du trio fondateur de la structure, où on est en Sarthe depuis 1998.
Bonjour, Valérie Pourroy, comédienne et metteur en scène, et je ne vais pas rajouter grand-chose. Donc voilà, moi je fais partie de la compagnie depuis le début aussi.
Alors justement, les élèves vous ont posé des questions sur la mise en scène, et comme vous venez de le dire, vous avez des profils peut-être assez différents dans cette compagnie.
Oui, tout à fait. Personnellement, moi, je suis comédienne et plasticienne et marionnettiste. Donc, je fabrique pas mal d'accessoires et de scénographies pour la compagnie. Et souvent, quand il y a de la manipulation, c'est pour moi.
Avec Valérie, nous, on gère la mise en scène et les choix éthiques de la compagnie. Et en plus, moi, je m'occupe de toute la partie chiffres et Valérie de toute la partie texte. Voilà, quand il y a un texte à pondre, Valérie, s'il te plaît. Et quand il y a un devis, c'est moi qui m'y cogne. Il y a un homme en plus qui fait partie du trio fondateur, voilà, Christian Brouard. Et en plus de ces trois personnes-là qui sommes vraiment à l'origine et qui sommes sur, qui font fonctionner la compagnie, on travaille avec des artistes différents selon les projets. Lou Brouard, avec lequel on travaille régulièrement, Katia Grange, et puis des comédiens ou musiciens de façon plus ponctuelle au projet.
Quels sont ces projets ? Là, on est sur une lecture théâtre, conté, spectacle.
Nous, mais il y en a beaucoup qui disent lecture théâtralisée. Voilà, ça revient. C'est parce qu'on a tendance à dire, nous, lecture théâtralisée, c'est encore plus proche de la lecture. Là, on s'éloigne un peu de la lecture quand même. Voilà. Et on a aussi des spectacles et des concerts, lectures et voilà, différentes formes qui s'adressent du Zébulon suit la pluie. On le joue pour les enfants à partir de 2 ans en maternelle ou en structure. Et ça va jusqu'aux spectacles purement adultes qui ne conviennent pas pour les enfants. Voilà, il y en a pour tous les âges. Voilà.
Parce qu'on fait pas mal d'actions culturelles aussi en milieu scolaire. On intervient en fait. Ça fait partie de nos activités quand même. On intervient pas mal en milieu scolaire. Et donc on aime bien aussi venir jouer dans les locaux et amener des spectacles dans les lieux, dans les établissements scolaires.
Oui, nos spectacles ils sont pas toujours prévus pour les lieux dédiés. C'est pas toujours dans une boîte noire, pas toujours dans un théâtre. Et justement, on a notre décor qui est malléable pour pouvoir jouer dans une salle des fêtes, jouer dans une salle de classe, jouer dans un CDI, jouer dans une bibliothèque et être assez souple sur le lieu qui nous accueille.
Alors le lieu, mais aussi justement les élèves, entre justement une salle de spectacle et venir ici dans un collège, comment ça se passe, la réception ? Est-ce que vous êtes en prise directe avec, les spectateurs ? Comment ça se passe ?
Le ressenti n'est pas du tout le même. Là, on les a à 1 mètre de nous. Il n'y a pas de noir, donc on les voit en permanence. Donc, ils se sentent moins protégés que dans une boîte noire où ils vont être 300 et dans le noir. Donc voilà, ça crée un autre rapport que nous, on aime plutôt bien, qui est dans une proximité beaucoup plus grande. Voilà.
Vous non plus, vous n'êtes pas protégés.
Nous non plus.
Mais on aime bien.
Mais nous, on aime bien.
Et puis avec les élèves, ça se passe bien, en général.
C'est plutôt des rapports très chouettes qui s'instaurent.
Oui, c'est une intimité et un rapport où justement, vu que c'est très proche, ils sentent qu'on va vraiment jouer pour eux, dans leur établissement, et c'est juste pour une classe. Donc il y a quelque chose aussi de privilégié qui peut s'instaurer.
Et quand on est dans un collège comme ça, en milieu rural, comme c'est le cas ici, eh bien, il y a plein d'élèves qu'on emmène, dont les parents ne les emmènent pas voir des spectacles au Mans. Et donc, si c'est l'établissement qui doit payer le quart, en sachant que les quarts ont énormément augmenté, ils n'en voient plus. Donc, je trouve ça important de continuer, nous, à y aller pour qu'eux aussi ils aient accès à des spectacles. C'est à tout le monde, ça. C'est notre culture commune, ces histoires-là. C'est du bien commun. Donc, il faut le partager.
Ulysse aussi, justement, c'est du bien commun.
Oui.
Vous avez choisi quelque chose qui rassemble, en fait, un texte qui rassemble.
Alors, au départ, c'était une commande, parce qu'on a tout un travail sur le quartier des Sablons, autour de la lecture à voix haute, et c'était une demande des enseignants qu'on travaille sur Ulysse, au départ. Sauf que, comme on a complètement flashé sur le texte d'Yvan Pommeau, on en a fait une lecture spectacle, et on l'a mise à notre catalogue. Voilà.
Ok, question scénographie, on est vraiment dans la sobriété. Donc un élève posait la question tout à l'heure, comment sont faits les décors. Donc c'est fait en récup, mais tout est très sobre dans la mise en scène. Et comment vous avez conçu, vous avez réfléchi à ça?
On voulait vraiment des matériaux recyclés. On voulait vraiment que les élèves puissent se projeter à les fabriquer eux-mêmes. Par exemple, les petits panneaux pour dire Uli, Itac ou 3, etc. C'est vraiment juste un morceau de carton avec le mot écrit en feutre. Mais je voulais leur montrer que ça marche et que si jamais eux, ils ont envie de s'emparer de ces idées-là pour, à leur tour, raconter des histoires, Ulysse ou autre, que ça éveille leur imaginaire. Et donc, après, on est resté sur des couleurs craft, on est resté sur des couleurs assez simples, et on n'avait pas envie qu'il y ait beaucoup de peinture, qu'il y ait beaucoup de choses comme ça, parce qu'on voulait vraiment rester dans une esthétique proche du matériau. Donc, il y a du bois, on voit le bois, il y a du craft, on voit le craft. J'ai utilisé des papiers de soie qui étaient déjà teints en bleu ou en blanc et autres, pour vraiment rester dans quelque chose de très sobre, de très simple, pour que ça fasse la part belle aux informations importantes et impactantes. Puis c'est aussi par rapport à la commande, on nous a demandé de raconter Ulysse à des enfants en 40 minutes. C'est quand même un sacré morceau, et je trouvais qu'avec les mots, des fois, on finit par s'y perdre, à juste écouter, et je voulais que les enfants ils se rendent compte que Ulysse, il traverse toute la Méditerranée en long, en large et en travers, qu'Ulysse, il part avec plein de bateaux et il perd tous ses compagnons, et donc il part avec toute une armée, une flotte entière, et il finit par rentrer à Ithaque, mais il rentre tout seul, sans bateau. Donc vraiment, aussi de notifier ces pertes-là. Et d'avoir un peu un visuel de Caribe et Scylla, c'est quand même des créatures très particulières. Et on avait envie que visuellement, ça les marque et qu'ils s'en souviennent. Parce qu'en plus, c'est au programme, eux, de 6e, donc ça va leur servir en histoire, en français. Donc je me suis vraiment dit, comment on fait une scénographie qui leur parle tout de suite, qui peuvent après s'en emparer et qui va faire en sorte qu'ils vont retenir les informations le plus simplement possible.
Oui, ça fonctionne très bien, la mise en voix et l'image fonctionne très bien parce qu'on est tout de suite projeté en fait dans un autre univers que celui du craft. On a chacun notre perception, notre imaginaire qui s'ouvre.
Comme c'est assez sobre, ça laisse part à l'imaginaire en fait. Et qu'en plus, ce que je veux juste rajouter par rapport à ce que disait Lou, c'est que par rapport à l'album d'Yvan Pommeau, les illustrations sont très belles et très fortes. Et on ne voulait absolument pas rentrer dans la même esthétique, évidemment. Donc, il fallait trouver aussi une esthétique très différente. Et pour le coup, on est rentré vers... Enfin, c'est l'idée du théâtre pauvre aussi, quoi. Enfin, voilà, quelque chose de très simple et qui allait aussi avec les instruments, qui sont que des instruments de percussion hyper simples. Voilà, on est vraiment, dans une simplicité, une sobriété. Et oui, théâtre pauvre, enfin, on va dire ça comme ça. Enfin, mmh. Voilà.
Et l'importance de la cartographie aussi dans cet imaginaire, parce que... On voit cette carte donc, qui est très simple et on imagine après la suite autour des labyrinthes, enfin tout plein d'autres histoires en fait où on se rapproche puis finalement on s'éloigne de notre but.
Puis là la carte, je trouve que ça permet de s'en rencontrer très de
de façon très claire, Troyes et Ithaque, au final, si on regarde le bassin méditerranéen, c'est très proche, sauf qu'il va se retrouver jusqu'au détroit de Gibraltar et il va aller, venir, etc. Et au final, il va mettre 10 ans à faire un trajet qui aurait pu être très court. Je trouve que si on n'a pas la carte sous le nez, ça, se rendre compte que Ithaque et Troyes, c'est très proche, c'est impossible.
En tout cas, cette légende grecque, elle fait partie de notre bien commun et de ce qui a fondé les histoires qu'on raconte encore aujourd'hui.
D'ailleurs, il étudie en classe, donc c'est quelque chose qui est perpétué, en fait.
Ça ouais. fait partie des mythes fondateurs. Voilà.
Alors, où est-ce qu'on vous retrouve, justement,
Sur notre site, hein, sur le site de la Pérenne Compagnie. Et puis, on est par le biais du Pass Culture, en espérant que ça continue.
Voilà. Dans le cadre des financements qu'ils voudront bien donner au Pass Culture, on y est.
Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de Radio Prévert. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en podcast via le site internet radioprévert.fr à la rubrique Dans la cour des grands. À très bientôt.